9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Les États-Unis, suivis par le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ont annoncé un boycott diplomatique des prochains Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. La France n'a pas l'intention pour l'instant de les imiter, mais une tribune d'intellectuels appelle au boycott intégral. Fabien Ollier, qui en est à l'origine, est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Caroline Pigozzi, grand reporter à Match depuis 20 ans. Elle publie « Pourquoi eux ?». Ce sont ses rencontres et ses entretiens avec tous ceux qui ont fait l'époque, les présidents, les souverains, les papes, les grands patrons et les grands artistes. Et l'on terminera l'émission avec Joe Star qui sort Five Star, 5 étoiles, un magazine culinaire sur papier avec l'édito de Joe Star, ses recettes, ses astuces, ses adresses, ses anecdotes. Joe Star, gastronome, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.
Europe 1.
Bonjour Fabien Ollier.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, directeur de la revue Quel Sport. C'est vous donc qui êtes à l'origine de cette tribune d'intellectuels parue jeudi dans le Figaro, appelant à boycotter les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Elle est signée entre autres par Pascal Bruckner, Nathalie Hennick, Robert Redeker, Jacques Testard, Pierre-André Taguieff. Vous demandez tous aux autorités françaises que nos sportifs n'aillent pas à Pékin. Le boycott diplomatique annoncé par les États-Unis est suivi par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, n'est pas suffisant à vos yeux. Ils enverront leurs athlètes, mais aucun représentant politique. Vous voulez le boycott intégral ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, c'est aujourd'hui la seule solution par rapport à la menace que représente la Chine aujourd'hui, y compris d'ailleurs pour les sportifs, comme l'affaire Peng Shuai l'a montré. Je pense qu'en effet, il est du devoir non seulement des responsables politiques, mais également des fédérations sportives, du Comité national olympique français et des athlètes, de se positionner tout à fait clairement, dans le sens où on ne peut pas être citoyen le dimanche et simplement athlète le restant de la semaine sous prétexte de produire des performances pour lesquelles on s'est entraîné pendant certes très longtemps, mais qui en effet ne représentent pas grand-chose au regard des droits de l'homme qui sont régulièrement bafoués en Chine dans ce régime tout à fait totalitaire.
Mais le boycott diplomatique, c'est nouveau, hein. C'est une façon justement de ne pas priver le sportif d'une compétition pour laquelle, vous l'avez dit, il s'est préparé de longue date. Pourquoi faire porter uniquement par les sportifs une décision qui est politique ? On n'en demande pas autant aux entreprises, ni aux consommateurs qui continuent de consommer du Made in China, ni aux téléspectateurs qui pourront regarder les Jeux à la télé. Vous ne trouvez pas ça injuste de tout demander aux sportifs ?
Non, c'est pas tout demander aux sportifs, c'est demander aussi aux sportifs, de la même qu'on peut demander, on peut exactement demander la même chose aux entrepreneurs, on peut exactement demander la même chose aux touristes, on peut exactement demander la même chose aux responsables politiques et associatifs. Pendant cette période des Jeux Olympiques de Pékin en particulier, mais il y a eu d'autres moments où il aurait fallu montrer que la France ne pouvait se rendre complice d'un tel régime, eh bien pendant la période des Jeux Olympiques en particulier, c'est une opération de propagande tout à fait massive aux yeux du monde entier. Vous savez que les Jeux Olympiques sont suivis d'une manière tout à fait considérable. C'est un événement de masse qui est tout à fait important et symbolique pour renforcer la verticale du pouvoir en Chine et pour renforcer également toute sa propagande nationaliste à un moment où la Chine est tout à fait va-t-en-guerre à l'égard de ses voisins, notamment Taïwan, à l'égard de l'Australie également, qu'elle a menacé directement.
On n'est pas non plus au bord de la guerre quand même, Fabien Ollier. D'ailleurs, la France ne s'est pas ralliée pour l'instant au boycott diplomatique. Jean-Michel Blanquer a même déclaré que le ministre des Sports allait se rendre en Chine, ainsi que la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Emmanuel Macron est hostile au boycott diplomatique. Il l'a qualifié de décision toute petite et symbolique. La France appréciera l'évolution de la situation en lien avec les autres pays européens et avec le CIO. C'est la déclaration officielle. Vous pensez qu'on va y aller ?
Si effectivement, comme vous dites, on y va, ce sera une honte et nous serons de fait à nouveau les collaborateurs d'un régime qui aujourd'hui ne peut absolument pas être accepté ni par des gouvernements qui se disent démocratiques, ni par des athlètes qui aussi revendiquent leurs attachements aux droits de l'homme et aux droits des citoyens. Je vous rappelle par exemple que la déclaration du responsable du président de la WTA, Steve Simon. Il a dit quelque chose de très juste dans son communiqué que je vais me permettre de rappeler à vos auditeurs parce que je trouve sa position tout à fait juste. C'est au sujet évidemment de Peng Shuai. Il dit « Rien de tout cela, c'est-à-dire le traitement que subit Peng Shuai, le fait qu'elle ait été enlevée et qu'aujourd'hui elle est placée dans une situation d'isolement surveillée, contrôlée, où sa parole n'est plus libre du tout, il dit donc « Rien de tout cela n'est acceptable et n'est susceptible de le devenir. Si des puissants peuvent réprimer la voix des femmes et mettre sous le tapis des allégations d'agression sexuelle, alors le fondement même de la WTA, l'égalité pour les femmes, subirait une immense atteinte. Je ne veux pas et je ne peux pas infliger cela à la WTA et à ses joueuses. » Donc, Steve Simon a pris la décision de suspendre toutes les compétitions de tennis en Chine et à Hong Kong. Eh bien, il serait grand temps que le Comité international olympique tienne exactement le même type de discours et les fédérations sportives françaises, le Comité national olympique français, tiennent exactement le même type de discours. Car en effet, on ne peut pas, au nom justement de la charte olympique, des soi-disant idéaux et principes de l'olympisme, on ne peut pas à la fois dire qu'on veut mettre le sport au service de l'humanité et envoyer ces sportifs faire du ski, du patin à glace ou du curling dans un pays qui prive de leur liberté les sportifs et qui les met dans une situation d'insécurité grandissante.
Je rappelle juste que Peng Shuai, c'est donc cette jeune tenniswoman qui a déclaré sur les réseaux sociaux chinois qu'elle avait été agressée sexuellement par un ancien vice-premier ministre et qui depuis a disparu. On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Fabien Ollier, vous êtes donc le directeur de la revue Quel Sport et vous êtes à l'origine de la tribune d'intellectuels parue dans le Figaro qui appelle à boycotter les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. À chaque Jeux Olympiques ou presque, la question du boycott se pose. Reconnaissez, Fabien Ollier, qu'à chaque fois que ça a eu lieu, en 1956 à Melbourne, en 1976, en 1980, en 1984, en 1988, ça n'a rien changé. Ces Jeux ont eu lieu quand même et la situation politique qui était dénoncée est restée la même.
Écoutez, alors là, il y a quand même des nuances à apporter dans tout ce que vous dites. D'une part, chaque Jeux Olympiques et chaque histoire des boycotts est tout à fait singulière. Et moi, je pense qu'il faudrait plutôt inverser le propos en demandant à ce que les tenants de cette thèse d'un boycott inefficace expliquent d'abord en quoi les Jeux Olympiques, qui sont organisés par des régimes totalitaires, des dictatures, des régimes militaro-policiers, sont, eux, efficace pour ouvrir ce genre de système concentrationnaire ou pacifier des dictatures qui sont des dictatures impérialistes et sur le pied de guerre et qui menacent clairement d'autres pays. On l'a bien vu encore une fois pour les Jeux Olympiques de Pékin 2008. Beaucoup nous disaient, et moi j'ai fait partie de ceux qui ont mené campagne contre les Olympiques de Pékin en 2008, hein, pour des raisons qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles d'aujourd'hui mais qui y ressemblent également puisque l'histoire malheureusement se répète concernant les Jeux Olympiques en Chine. L'argument qu'on nous opposait, c'était la thèse de Pascal Boniface à l'époque, les Jeux Olympiques vont ouvrir la Chine, vont pacifier la Chine, vont démocratiser la Chine. Eh bien, que constatons-nous quelques années plus tard? Eh bien, on constate que la Chine, en tout cas le régime totalitaire chinois, est en train de procéder au génocide, hein, employons ce terme puisqu'il a été utilisé par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et tant d'autres, mais également par les gouvernements américains et canadiens. Donc il y a un génocide qui se déroule sous nos yeux dans un pays qui organise dans quelque temps des Jeux Olympiques. Ce génocide, c'est celui des Ouïghours. Plus de 1 million de personnes, entre 1 et 3 millions, sont aujourd'hui dans une situation tout à fait concentrationnaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé juste après les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, qui devait ouvrir encore une fois ce pays? Eh bien, il y a eu une vague de répression et une vague d'arrestations énormes de dissidents et de militants des droits civils. Bon, donc on se rend compte qu'à chaque fois que des Jeux Olympiques ont lieu dans des régimes qui sont des régimes antidémocratiques, des régimes dictatoriaux, des régimes totalitaires, ces Jeux Olympiques ont pour fonction de mettre au pas la population, de l'endoctriner, de mettre en place une propagande, une sorte de lavage de cerveau nationaliste qui prépare à toutes les guerres ou qui renforce les implications dans des guerres. Donc, de ce point de vue-là, dire que c'est inefficace, moi, je le conteste. D'une part aussi parce que c'est justement en disant que c'est inefficace que les pays où les athlètes finissent par se donner bonne conscience et à ne pas y aller. Or, il n'y a jamais eu véritablement de boycott qui a été suivi, notamment de boycott intégral, qui aurait permis à de multiples pays qui se mettraient d'accord de ne pas envoyer leurs athlètes pour participer à des jeux qui sont, encore une fois, des jeux de propagande, des jeux, des opérations de prestige pour laver les crimes de régimes tout à fait odieux.
Je vous rappelle aussi qu'on a toujours parlé de trêve olympique. L'esprit des Jeux, c'était justement la trêve, aussi bien dans les cités grecques et puis plus tard, entre des États hostiles les uns aux autres, mais capables, le temps des Jeux, d'oublier leurs différends et de se rencontrer pour faire du sport.
Bien sûr, ça c'est l'idéalisme mystificateur des idéologues de l'olympisme. Rien dans l'histoire n'a montré que les Jeux olympiques permettaient la trêve. En l'occurrence, encore une fois, on peut donner cet exemple tout à fait parlant des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Le jour même de l'ouverture de ces Jeux, la Russie envahissait la Géorgie. Voilà. Le fait est que des pays qui participent aux Jeux olympiques n'ont absolument que faire de la trêve et au contraire se servent de cette mystification pour mettre en œuvre leur plan et leur stratégie de bataille. Et c'était également comme ça de toute façon dans les cités grecques qui se préparaient à la guerre en même temps qu'elles faisaient les Jeux olympiques. Donc de ce point de vue-là, c'est cette notion de trêve olympique est une forme de cache-sexe pour permettre toutes les forfaitures.
Mais dans votre raisonnement, Fabien Ollier, est-ce qu'il faudrait aussi exclure alors ces pays-là des Jeux olympiques, pas seulement quand ils les organisent, mais aussi pour qu'ils n'y participent plus?
Mais la question en amont que posent les campagnes de boycott qui, comme vous le disiez, se multiplient d'ailleurs ces dernières années, puisqu'il n'y a quasiment plus de Jeux olympiques qui ne se passent sans qu'il y ait de campagne de boycott. Ce que provoque et ce que révèlent ces campagnes de boycott, c'est d'abord et avant tout la crise de l'idéal olympique ou de l'idée olympique, ou même y compris évidemment de l'institution olympique. La question qu'on peut se poser en amont, c'est pourquoi et au nom de quoi le CIO attribue ces Jeux olympiques à des régimes dont tout le monde sait que ce sont des régimes totalitaires, dictatoriaux, autoritaires, antidémocratiques en tout cas, militaro-policiers. On le voit avec les Jeux olympiques de Sochi en 2014, on le voit avec les Jeux olympiques de Pékin en 2008, on le voit avec les Jeux olympiques de Pékin, encore une fois, en 2022. Jeux olympiques dont tout le monde se rend compte de l'aspect extra-sportif pour ce qui concerne les intérêts du CIO, car confier les Jeux olympiques d'hiver à une ville située à 44 mètres d'altitude, qui est l'une des villes les plus polluées au monde, qui va faire concourir des skieurs sur des pistes de ski à 500 ou 600 mètres d'altitude à peine, qui seront obligés de conduire là-bas en bus et autres moyens de transport, et tout ça avec neige artificielle à 100%, quelle mascarade pour un comité international olympique qui prétend constituer des jeux verts, des jeux peu dispendieux et des jeux respectueux de la nature. Enfin, il y a quelque chose de grotesque dans tout cela, et ce que révèle ce grotesque, c'est surtout que le comité international olympique a des attaches profondes avec les régimes dictatoriaux, totalitaires, avec qui il s'entend à merveille, et qui sont aujourd'hui d'ailleurs les principaux financeurs du sport mondial.
Merci Fabien Ollier. Votre tribune est parue dans le Figaro jeudi dernier. Je rappelle qu'elle est signée par plusieurs intellectuels comme Pascal Bruckner, Nathalie Hennick, Robert Redeker, Jacques Testard ou Pierre-André Taguieff.
Et ajouter Jean-Marie Brome également, qui est un des fondateurs tout à fait historiques de la critique du sport en France et également des campagnes de boycott contre les Jeux Olympiques depuis très longtemps.
Dont acte, merci.
Voilà, je vous remercie.
On se retrouve juste après une pause avec Caroline Pigozzi.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Caroline Pigozzi, bonjour.
Bonjour.
Co-reporter à Paris Match depuis 30 ans, vous publiez un gros livre de plus de 800 pages aux éditions Plomb. Pourquoi eux ? C'est sur tous ceux qui ont fait notre époque et que vous avez rencontré, interviewé au cours de votre carrière, les présidents, les souverains, les papes, les grands patrons, les grands artistes. Le premier a été Charles Schulz, le dessinateur de Snoopy et de Charlie Brown. Vous n'êtes encore qu'une jeune étudiante à l'Université de New York. Lui est l'auteur de bande dessinée le plus célèbre et le plus riche du monde. Vous trouvez son numéro de téléphone, c'est lui qui décroche. Comment avez-vous fait pour qu'il vous invite chez lui ?
Écoutez, c'est une histoire assez amusante parce que j'avais d'abord dû faire des examens de santé chez un médecin où allaient les étudiants français qui étaient à New York University. Moi, j'étais à l'école de journalisme et je trouve dans la salle d'attente Jean Prouveau.
Ah oui, le patron de Match à l'époque.
Patron de Match. Je plonge sur Jean Prouveau, je ne laisse pas parler. Il a attendait avec un peu d'anxiété. Je lui dis, voilà, je me présente, je suis Caroline Pigozzi, je suis à l'école de journalisme, je dois faire mon devoir de fin d'année, je voudrais aller faire un devoir sur, faire un mémoire sur Schulz, c'est ce que vous me l'offrez. Il était tellement stupéfait qu'il me dit, pourquoi pas, aller voir mon directeur à New York et on va voir ce qu'il peut faire pour vous. Donc j'y suis allée. Il était très gentil, comme ça venait du grand patron Jean Prouveau, qui était craint, respecté, admiré. On m'a offert le voyage, sujet qui finalement était un peu de travers et jamais passé. Moi, j'ai trouvé son numéro de téléphone par une amie d'une amie, de façon providentielle, qui travaillait dans le cinéma. Il a décroché, là aussi je ne l'ai pas laissé parler, je lui ai raconté mon histoire. Les Américains sont beaucoup plus gentils pour ça que les Français, en tout cas à l'époque, et sont... aide beaucoup les jeunes, y croit en la jeunesse. Et il a dit, bon, ben, venez me voir, j'habite à Santa Rosa, c'est un endroit lointain pour vous, étant donné que vous êtes sur la côte Est, et je vous recevrai. Et puis, si vous êtes sympathique, ça durera longtemps. Si vous êtes moins sympathique, ça durera 2 heures.
Donc, on
est devenu non seulement amis, mais il est venu à mon mariage. Il a dessiné des Snoopy pour tous les enfants d'honneur et je suis couverte de Snoopy chez moi.
Alors, selon le magazine...
Et sa femme envoie encore tous les ans un calendrier avec des Snoopy. Je viens de le recevoir.
Selon le magazine Forbes, il gagnait environ 25 millions de dollars par an, dont 80% provenaient des produits dérivés, hein, les peluches.
Oui,
les t-shirts,
ma petite montre,
votre montre, Snoopy, Charlie Brown, etc. Il ne vous a pas dit si c'était vrai, d'ailleurs, quand vous lui avez posé les questions, plus tard, quand vous êtes revenu l'interviewer. Mais il vous a dit que ses deux seuls luxes étaient sa patinoire olympique et son jet privé. La patinoire olympique, vous l'avez visitée ?
Oui, oui, bien sûr. Il a même voulu que je fasse du patin. J'avais, comme beaucoup de petites jeunes filles, vaguement patiné à l'époque à Molitor. Et j'étais nullissime, donc il m'a mis des patins. Je ne voulais pas le décevoir, pas l'énerver. J'étais sur le bord de la piste parce qu'en fait, les gens jouaient au hockey. Vous voyez, c'était du patinage un peu...
Mais lui-même jouait du hockey. Mais c'est drôle quand même de l'idée de se payer une patinoire olympique.
C'était un rêve d'enfant. Elle était fantastique, la patinoire. Et il y avait un restaurant avec des clubs sandwich absolument formidables. Il y avait le club sandwich Snoopy. Il y avait,
c'était, donc c'était une patinoire ouverte au public.
Ah, mais c'était pas pour les gens de Santa Rosa. Ils payaient rien. Enfin, une chose tout à fait symbolique. Et il y avait une boutique absolument extraordinaire. Il y avait tous les produits Snoopy. C'était un endroit merveilleux. Si je pouvais, si j'avais un tapis volant, je partirais en courant.
Son jet, en revanche, était privé. Mais c'est bizarre, là aussi, pour quelqu'un qui n'a pratiquement jamais voyagé. Puisque pendant près de 40 ans, Charles Schulz s'est installé à son bureau de 9h du matin à 5h de l'après-midi, 5 jours par semaine, pour dessiner son strip quotidien des Peanuts, publié à environ par 2500 journaux.
Hein. Ah non, mais c'était impressionnant parce qu'il était d'une humilité extraordinaire. Mais l'avion, il détestait voyager, mais quand même, comme les Américains ont des enfants qui habitent pas du tout là où ils sont, généralement ils voyagent dans les 50 États américains où ils s'installent ailleurs, il allait voir ses enfants, c'est une famille recomposée, donc sa femme avait aussi des enfants, ça leur servait principalement...
Pour aller chercher les enfants, le
mais
jet,
oui,
quoi.
Non, et le chien.
Philippe Noiret, c'est certainement le plus difficile pour vous à interviewer. Deux fois par hasard, vous le rencontrez, vous vous présentez comme une fan et à chaque fois, il vous envoie promener.
Ah oui, non, c'était affreux. J'étais une groupie depuis toujours. J'ai vu tous ses films depuis Zazie dans le métro. J'étais émerveillée de le rencontrer à l'hôtel à Rome où il était en train de régler sa note. J'étais derrière lui, les yeux écarquillés. Je lui ai raconté, je lui ai expliqué avec passion mon enthousiasme. Il a marmonné, oui, ça ne m'intéresse pas du tout. J'étais un peu vexée. Et puis, je l'ai revu chez son fleuriste, chez Mouillé, place du Palais Bourbon. Il habitait à côté, il habitait rue de Bourgogne. J'ai recommencé parce que je suis un peu déterminée. Et là, il a carrément haussé les épaules. Il a dit, écoutez, ne continuez pas, ce n'est pas la peine. J'étais mais horriblement vexée. Je crois que je me serais mise à pleurer.
Dit, vous êtes une professionnelle, vous savez bien que ce n'est pas comme ça qu'on aborde les gens quand on veut les interviewer, pas comme une fan, hein, en fait.
Oui, mais si vous voulez, c'était plutôt... Je m'en foutais au fond de l'interviewer. J'étais fascinée par le personnage. C'est je ne voyais pas ça... Je voyais ça comme un acte de sympathie envers lui.
Vous réussirez quand même à l'interviewer pour Match. Hein.
Oui, mais il a été quand même très désagréable. Oui. Le jour où je l'ai interviewé, il a déjeuné devant moi et il répondait. Et tout en déjeunant, il ne m'a pas proposé une tasse de café. Je dois dire que j'étais fascinée. C'était au Théâtre des Champs-Élysées.
Brigitte Bardot, vous en aviez longtemps rêvé. Cela finit par arriver en 2018. C'était après MeToo. Et elle vous dit, moi, je n'ai jamais été victime d'un harcèlement sexuel. Je trouvais charmant qu'on me dise que j'étais belle et que j'avais un joli petit cul.
Oui, alors je lui demande si les présidents de la République lui ont fait la cour. Elle m'a dit tout. Elle a eu tous les présidents à ses pieds, sauf le général de Gaulle quand même. Mais c'est formidable, vous voyez. Alors elle raconte ceux qui ont été les plus gentils, ceux qui lui ont plus fait la cour, ceux qui et plus ses affinités. Mais elle le dit avec une telle poésie, un tel humour. Et elle est formidable parce qu'elle est complètement naturelle. Très gentil. En plus, nous, on a en commun l'amour des animaux. Pendant l'interview, il y a le cheval qui est venu, il y a l'âne qui était à la porte, il y a les chiens qui sont arrivés, elle avait un chat sur une épaule, un autre qui est venu s'installer sur la table. Donc, c'était un endroit et un moment merveilleux.
À propos de harcèlement, il y a Claude Pompidou, la veuve de Georges Pompidou, qui vous confie que lors d'un dîner officiel à Buckingham Palace, le ministre des Affaires étrangères britannique, George Brown, à l'époque, lui avait ploté le genou. Et il lui avait même demandé son numéro de téléphone personnel pour pouvoir l'appeler à Paris.
Oui, il s'appelait George, alors il lui a dit pour vous, ça serait évidemment très facile. Et il avait la main très touristique, je le confirme.
Non, mais c'est dingue, le président de la République française était à côté.
Oui, mais bon, il devait avoir des fantasmes immédiats. Et puis il a dit, je m'appelle George aussi, donc il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'erreur. Vous savez, c'est comme les hommes qui prennent une maîtresse qui a le même prénom que leur femme, c'est plus facile.
Il y a Sœur Emmanuelle aussi, vous l'interviewez en 1995. Elle vous dit qu'aujourd'hui, elle n'aurait pas pris le voile, elle aurait peut-être fait des bêtises, elle serait peut-être devenue révolutionnaire ou elle serait rentrée dans un gang pour jouer les femmes fatales. Heureusement, dit-elle qu'elle est née en 1908, à une époque où on entrait dans les ordres à 20 ans et pas à 40 comme aujourd'hui.
Mais il y a eu un événement, c'est qu'elle elle travaillait avec un frère des écoles chrétiennes qui s'appelait le père Boula. Ils étaient deux frères, un était jésuite, l'autre était frère des écoles chrétiennes. Et quand j'y suis allée, ce frère des écoles chrétiennes venait de prendre sa retraite et avait décidé de se marier. Elle était un tout petit peu perturbée. Parce que bon, quand même, d'abord, ils étaient très complices dans le travail. Et tout à coup, ce prêtre qui vient lui dire, finalement, j'arrête et je me marie, ça l'a un tout petit peu déstabilisé. Donc, elle me racontait ça. Et c'est pour ça que je l'ai mise sur le sujet.
Caroline Pigozzi, on pourra en citer plein. Hein. Le livre est énorme. Donc, il y a tous les présidents de la République. Il y a tous les papes. Dieu sait si vous les avez bien connus. Chacun, vous avez passé 10 jours avec Jean-Paul II.
Là, je suis rentrée il y a 2 jours du voyage du pape. On était avec
là,
lui.
Là, c'est le pape François, effectivement. Parmi toutes ces interviews, il y en a deux qui semblent vous avoir particulièrement impressionné. Il y a Geneviève Antonios de Gaulle, qui était une grande résistante, la nièce du général de Gaulle, et Jean-Marie Justiger, l'ancien archevêque de Paris. Pourquoi ces deux-là ?
Geneviève de Gaulle-Antonios parlait des choses avec un tel naturel, une telle profondeur. Quoi qu'elle dise, c'était toujours intelligent. Elle avait les yeux qui pétillaient. J'étais impressionnée par son humilité. À la fois sa gentillesse, son humilité, cette façon de se mettre toujours à la hauteur des autres. Vous voyez, elle n'était pas du tout... Elle avait fait une guerre magnifique, elle s'appelait De Gaulle. Elle était très humble, je trouvais ça extraordinaire. Et le cardinal Lustiger, j'étais ébloui par le personnage, ému par lui. Il engueulait les journalistes, je faisais partie de ceux qui l'engueulaient, mais j'étais complètement impressionné par lui. Et un jour, ça a cassé la glace entre nous. Je lui ai dit, mais... Éminence, est-ce qu'il y a un cardinal archevêque de Paris ? Est-ce qu'une mère juive a jamais rêvé un jour avoir un fils cardinal archevêque de Paris ? Et il m'a dit, ah mais c'est formidable cette question, on ne m'a jamais posé cette question, ça a brisé la glace. Et on s'est très bien entendu et j'ai eu des moments extraordinaires avec lui parce qu'il était à la fois intelligent, séducteur, visionnaire. C'était un personnage... Pour des journalistes, c'était en plus du caviar, parce qu'il avait une idée par minute. Le tout, c'était de suivre. C'était ça la chose la plus compliquée. Et puis d'écrire en même temps, parce qu'il n'aimait pas les magnétos. Donc moi, j'enregistrais rien. J'avais trop peur. J'ai d'ailleurs mon livre. La plupart des gens n'ont pas été enregistrés, parce que c'est quand même le faux ami, le magnéto.
Merci Caroline Bigozzi. Pourquoi eux ? Ça vient de paraître aux éditions Plomb.
Merci à vous.
On se retrouve dans un instant avec Joey Starr. Joey Starr, pas le rappeur, pas l'acteur, le gastronome.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Joey Starr.
Bonjour.
Ce n'est pas le rappeur que je reçois aujourd'hui, ni l'acteur, mais le gastronome. Vous lancez en effet un magazine culinaire trimestriel, 5 stars, 5 étoiles, dont vous êtes à la fois rédacteur en chef et tête de gondole. Vous n'êtes pas seulement sur la couverture, vous signez l'édito, vous vous exprimez à chaque page, vous menez la plupart des interviews, vous êtes présent partout, en photo, dans les chapeaux, il y a vos recettes, vos adresses, vos anecdotes, le contenu de vos placards, il y a même un roman photo avec votre fils. Vous avez dû prendre du temps pour faire tout ça.
Ouais, ça a pris du temps. J'étais bien entouré, mais ouais, ça prend du temps. Et puis, il faut savoir qu'il y a pas mal de sujets. Il y a aussi un truc pour agrémenter les articles. Il y a des QR codes avec des interviews. Donc, c'est des choses qu'on avait tournées bien auparavant. Donc, trois quarts des gros sujets, en fait, c'est des choses que j'avais tournées avec mes petits amis avec lesquels on fait de la co-écriture, co-production sur des docs à caractère sociaux. Et il y avait tous ces gens-là parce que s'ils sont militants, c'est de vrais humains. Et qu'en fait, je me suis rendu compte aux sorties de La Route de la Soif, donc c'était l'émission que j'avais sur le Rhum, que le produit, c'était la lubie qui faisait la raison. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les histoires humaines, quoi. Et voilà pourquoi il y a tous ces gens et pourquoi j'ai fait ces interviews-là. Et je tenais à préciser quelque chose. Je ne suis pas un gastronome, en fait. Je suis un gourmand.
Un gourmand.
Voilà.
Différence vous faites
Bah, le gourmand, il a, par exemple, c'est le genre de mec, il prend le train, il voit une vache dans un pré, il peut avoir très faim d'un seul coup, il mange à toutes les heures, c'est sans compter, quoi, j'y vais, quoi. Je réglais des comptes avec des addictions, quoi, voilà.
Mais vous aimez faire ça, en plus, vous faites vraiment la cuisine. Vous dites à un moment qu'il est essentiel, voire vital, de passer autant de temps dans sa cuisine que dans sa salle de bain.
Ouais,
quel retournement.
Ouais, il est marrant, le mec. Non, mais je passe pas autant de temps que ça, moi. C'est le matin, je fais ce qu'il faut, et puis voilà, j'en ai fini. Non, mais c'était un petit clin d'œil à ma filleule Jazz, qui fait partie de cette génération, qui passe du temps à se pouponner... et qui bouffe de la merde à côté, voilà, c'est un petit clin d'œil pour elle. Et puis autre chose, pareil, quoi, je ne cuisine pas, je fais à manger. C'est autre chose.
Ouais, c'est moins raffiné, vous voulez dire, c'est moins...
Moi, il n'y a pas de dressage, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, mais du moment que les miens sont contents, que demande le peuple. Voilà, c'est ça.
Il y a quand même des allusions au fait que vous savez bien que c'est un peu inattendu, qu'on ne vous attend pas sous cet angle. Dans l'édito, par exemple, il y a écrit « J'aime me battre », jusque-là, pas de problème, mais il y a une virgule « Pour une alimentation plus saine
». Il est marrant. Comme je disais, ouais... Ça fait longtemps que je le sais, quoi, mais il y a un interview de mon gastro-entérologue qui explique très bien dans ce bouquin, dans ce magazine, que voilà, toutes les maladies modernes sont liées à ça. Moi qui suis vieillissant, sans avoir l'air d'y toucher, bah, je fais un peu attention à A, et donc j'apprends plein de choses, et ouais, c'est du legs, en fait.
Le gastro-entérologue en question parle de l'infarctus digestif.
Ouais.
Tout le monde ne sait pas que ça existe.
Ouais,
visiblement, on vous l'a dit.
Ah, moi, ça fait longtemps que je sais que ça existe, ouais, effectivement. Ouais. Ça fait longtemps que je sais aussi que on a l'intestin, on a autant de neurones qu'un animal de compagnie dans notre intestin. C'est pour ça qu'on fait des AVC intestinaux et ainsi de suite. Et puis c'est pour ça que ça régit nos humeurs aussi, enfin voilà.
Et vous avez toujours fait la cuisine, vous préparez à manger comme vous préférez. On vous voit par exemple préparer une salade de champignons et vous avez l'air vraiment de vous éclater.
Ouais, je me suis toujours fait à manger. C'est sûr que quand tout seul... J'y vais moins, mais dès que je suis en couple, dès que je suis avec les miens, j'essaie d'organiser des frichetis tous les dimanches pour avoir toute ma famille avec moi. Enfin, toute ma famille, toute ma smala. Et donc, du coup, ça marche, ils sont souvent au rendez-vous.
Et quand vous décrivez le contenu de vos placards, vous dites qu'on y trouve du rhum, bon ça c'est normal vu vos origines antillaises, mais aussi du curry japonais, du vinaigre de curcuma, des cubes d'aloe vera confit.
Ouais, entre autres.
Ouais, vraiment,
ouais.
Tout ça.
Ouais, Ah mais non, mais je fais ce que j'ai là dans ce mag, hein. Je raconte pas, on n'a pas fait ça pour donner du crédit. Ah ouais, effectivement, ouais, ouais, tu viens dans ma cuisine, c'est pas une cuisine témoin le truc.
Et à quoi ça sert les cubes d'aloe vera confit? Personnellement, j'en avais jamais entendu parler, mais
c'est pour faire des smoothies.
Ah oui?
Ouais, ouais, je m'en sers avec de la glace, smoothie, un peu de menthe, du citron, et voilà, de l'eau, et bim.
On a vraiment l'impression, en lisant ce magazine, que vous aimez tout, que vous êtes curieux de tout, que vous vous intéressez à tout.
Alors, je ne sais pas si je m'intéresse à tout,
vous
parce que je
Top
ne connais
Chef
pas
aussi
tout. Non.
Non, quand même pas. Non,
non, vraiment pas. Non, 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 je n'ai pas ce point-là, quoi. Je ne regarde pas Danser avec les stars aussi, par exemple. Non, non. Non, non, mais effectivement, je n'ai pas tout goûté, bien sûr, mais il n'y a pas grand-chose qui me rebute de tout ce que j'ai goûté, quoi, effectivement. Et puis, je suis surtout curieux, quoi. C'est aussi ça, hein. Enfin, le gastronome aussi est curieux, mais moi je suis curieux sans compter, quoi. Parfois je sais qu'il y a des saveurs que j'aime pas, machin, j'y vais quand même, quoi. Voilà.
Vous avez beaucoup voyagé, est-ce que vous essayez toutes les spécialités locales? Est-ce que vous avez mangé du zèbre en Afrique ou
j'ai
du
peut-être pas, non,
en
pas
Australie?
Du zèbre en Afrique, mais j'ai mangé j'ai mangé dans des bouis-bouis parfois sur le bord de la route, dans des pays. Je me rappelle une fois avoir été avec David Guetta et sa famille et moi la mienne. Il y croyait pas, quoi, qu'on s'arrête. Le mec faisait. On était à Maurice, à l'île Maurice, une espèce de petit poivron farci, mais enfin, l'endroit payait. Eux sont restés dans le Camtar et nous, on s'est régalés en les regardant. Et après, on est allé je sais plus où, on a bouffé de la tortue, alors qu'eux étaient au steak de thon. Enfin, voilà, on a. Voilà.
Et vous n'avez pas d'allergie, donc?
Eh bien, non, à part le pollen et la poussière, non.
Voilà. On fait une pause le temps que vous avaliez un peu de thé et on se retrouve juste après, Joy Star.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
C'est avec Joy Star, rédacteur en chef, que nous sommes ce matin. Le rédacteur en chef d'un nouveau trimestriel, 5 Star, cuisine vivante, engagée et partagée. Le projet C'est manger vrai. Vous êtes sur la couverture, au milieu d'une cuisine, avec un torchon sur l'épaule. Vous dites à un moment dans ce journal, dans ce magazine, plus exactement, Joy Star, bien manger, bien boire, ça rend moins con.
Ouais, je trouve que... Ouais, parce que... Moi, j'y vois un caractère très orgasmique dans tout ça. Donc, plus on a d'orgasme, plus on est détendu, normalement, non?
Ouais, mais est-ce qu'on est moins con pour autant?
Ouais, je pense que ça joue à mort, ouais.
Ah bon?
Ouais, ouais, c'est mon côté Dolto, là.
Dolto
en boîte cagette, ouais. Ouais. Non, non, mais je pense que, ouais, enfin, plus on se fait plaisir, plus on se détend, plus, voilà, on prend de la distance avec tout, plus on est apaisé, je sais pas, ça m'a l'air logique.
Oui, mais en même temps, vous dites toujours dans le même magazine que vous détestez vraiment qu'on touche à quoi que ce soit dans votre cuisine.
Ouais,
vous n'êtes
pas
détendu que ça. Quoi.
Mais non, ouais, mais de toute façon, je ne serai jamais, moi, détendu. ma mauvaise humeur est moteur, quoi qu'il arrive. Mais ma cuisine, c'est parce que aussi, c'est quand même l'endroit où j'ai besoin d'être tout seul. J'arrive à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire cuisiner et puis je suis tranquille, quoi. Donc, je peux avoir les réflexions que je veux, penser à des choses, rebondir sur d'autres, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est mon temple. Je ne veux pas qu'on... Ça, bien sûr que quand quelqu'un va chercher un verre, je ne suis pas en train de me foutre en boule par terre et si vous voulez un AVC, par exemple. Mais je veux dire... voilà, ça me tend un peu.
Ah oui, même quand on va chercher un verre, quand même.
Non, j'ai dit, voilà, ça me... Voilà. J'ai les yeux qui... Voilà.
Vous écoutez de la musique en faisant de la cuisine?
Ouais, ça m'arrive, ouais. C'est pas une obligation, mais oui, ça m'arrive. Moi, j'ai pour but de remettre le slow au goût du jour, donc j'écoute des trucs très slow-mo, quoi, effectivement. Ouais. En général, quand j'écoute des trucs très slow-mo, je fais des choses assez gourmandes, en général.
Ouais, c'est vrai que ce serait bien, le retour des slow.
Mais ouais, le quart d'heure américain, le sphère...
Ouais, on a connu ça la dernière fois, c'est dans les booms quand on avait 12-13 ans.
Ouais. Puis peut-être qu'il y aura un petit peu moins de problèmes entre les deux sexes.
Danny Briand a essayé à faire un album. Danny Briand, j'avais reçu sur Europe 1 pour un album avec que des slow.
Et bien, quand bien lui fasse...
Lui aussi essayez, on va voir si vous avez plus de chance. Ouais. Votre frigo, dites-vous, c'est un peu votre salle de muscu.
Ouais.
Vous montrez d'ailleurs une photo de l'intérieur. Il y a du persil plat, un poireau, du beurre, de l'eau de coco, des fromages de chèvre ou de brebis, des nouilles de riz, de la crème d'anchois. Pas vraiment des stéroïdes ou des anabolisants.
Bah, c'est là qu'on voit que je raconte beaucoup de conneries. Je dis ça surtout parce que mon sport préféré, c'est... C'est vider le frigo, quoi. Quand je peux aller faire les courses, machin, et qu'il y a plein de choses. J'adore l'idée de pouvoir cuisiner avec un bout de bois, une patate et un pneu, quoi. Enfin voilà, avec ce qui reste dans le frigo, quoi.
Vous dites aussi que le frigo, c'est comme les empreintes digitales, ça dit vraiment qui vous êtes.
Ouais, c'est pas faux.
Vous
quand
regardez
chez les gens.
Ouais, non, quand vous allez chez les gens.
Déjà, je vais très rarement chez les gens, mais quand j'ouvre comme ça, effectivement, je regarde. Je dirais, mais plus que le frigo, je dirais la cuisine un peu, quoi. Moi, je sais que chez moi, il y a plein de condiments. Le frigo, il y a toujours plein de choses. C'est impossible de se louper, quoi. La dernière fois, on est arrivé, il devait être 5h du matin, j'étais avec des chefs. Ils sont arrivés, ils m'ont fait, mais c'est génial. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, il y a toujours tout ce qu'il faut. Peut-être que ça me vient, je ne sais pas, de mon enfance. Ça me rassure de savoir que le frigo est plein et la cuisine bien chargée. De savoir que y a le garde-manger est toujours plein. Peut-être que ça me rassure, je ne sais pas.
Souvent, les gens disent qu'ils regardent la bibliothèque des gens quand ils vont chez eux. Ouais, mais vous avez raison. Tout le monde a une cuisine, tout le monde n'a pas de bibliothèque. Et la cuisine en dit peut-être plus long.
Exactement. Oui, vous pouvez regarder ma bibliothèque aussi, tout va bien. Oui,
ouais. On peut tricher avec la bibliothèque, on ne triche pas avec le frigo.
Oui, on peut tricher parce que je n'ai pas tout lu, effectivement.
Parmi vos recettes dans ce numéro, il y a une salade de persil et des toasts à l'avocat avec pommes et brebis. Et puis, il y a le sandwich au boudin, ouais. Le gratin d'endive. Ouais. Vous ne mangez jamais de viande, en fait.
Je suis un viandard invétéré et je tente de me calmer au possible. Mais il faut savoir que bon, moi j'ai les moyens, je n'achète pas de viande industrielle bien sûr. Je vais acheter la viande au marché, je vais acheter la viande chez le boucher quoi. Mais non, j'aime la viande.
Et le sandwich au boudin, alors que ça ressemble à quoi?
Bah, c'est quelque chose où on fait on poêle le boudin avec ce qui se passe avec du thym, du beurre et du thym, parce que le beurre c'est la vie, voilà. Et avec ce beurre et ce thym, après on toaste l'intérieur du thym, du pain pour que le pain et le beurre s'imprègnent. Et puis après on combine ça comme on veut, quoi. Moi je mets du brebis râpé, je mets des choses comme ça, voilà, avec du piment végétal, ça dépend, quoi. C'est à l'humeur, vraiment.
Le piment, il est forcément végétal, non?
Non, mais justement, il y a un truc qui s'appelle le piment végétal, c'est-à-dire que ça a le goût du piment, mais ça n'arrache pas.
Ah oui,
c'est ça. C'est un nouveau truc, et dont le nom est piment végétal.
Ah oui.
Je suis désolé.
L'idée de ce magazine, dites-vous, est née un jour où vous avez vu sur la carte d'un restaurant, sous l'intitulé œuf mayo, il y avait écrit « Premier au championnat du monde ».
Non, disons que... L'idée est venue dans l'endroit qui s'appelle Oui, mon général, qui est un très très bon resto, d'après moi. C'est plutôt familial, simple. On est plus du côté de la bistronomie que...
C'est le cas de la plupart des restaurants dont vous parlez, d'ailleurs. Ouais, c'est pas ouais, du tout des restaurants super gastronomiques, très chers, pas du tout.
Hein. Non, c'est pas mon truc. Moi, j'aime les plâtrés, j'aime l'ambiance, voilà. Et donc, mais ça m'est venu de là, en fait. Parce qu'en fait, c'est l'éditeur avec qui je déjeunais avec lui pour autre chose, et il m'a emmené manger là-bas, et d'un seul coup, avec les réflexions que je faisais, il me disait, mais il faut écrire quelque chose et tout. Et puis voilà, on en est venu à ça.
Mais l'idée qu'il y a un championnat du monde d'œuf mayo, ça quand même vous...
J'adore l'idée. C'est surtout que leur œuf mayo à eux, à Oui, mon général, est juste magnifique. Et c'est eux qui ont monté ce concours en plus. Voilà. Et c'est marrant. Hein. Enfin, un peu le genre d'endroit où on pourrait ne pas m'attendre. L'œuf mayo, championnat du monde de fromager, des trucs comme ça. Et c'est un kiff d'y aller, quoi. Voilà.
Merci, Joe Star, d'être venu.
Il faut préciser qu'on s'est raconté tout ça, mais... l'idée aussi, c'est que c'est très gourmand, tout ce qui se passe à l'intérieur du mag. C'est important de le dire.
Vous voulez dire qu'on ne l'avait pas dit, c'est que c'était gourmand?
Non, pas assez. Pas assez.
C'est marrant. Vous êtes dans la vieille réclame à l'ancienne.
Ouais,
hein,
exactement.
C'est ça.
Ouais.
Ben, dites le prix aussi, 7,90€, voilà. Dans tous les kiosques.
Merci.
Voilà. 5 stars.
Voilà, c'est fait.
Merci, Joey.
Merci de m'avoir invité.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. Je vous souhaite un très bon dimanche. Juste après le journal, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invité?
Bonjour Frédéric. Notre invité pour le grand rendez-vous sera Éric Ciotti. Et pour l'interroger, je serai entourée de Cécile Cornudet et de Mathieu Boccoté.
Merci Sonia. Bonne émission.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.